Bertozzi. Nous abordons maintenant cette deuxième partie d'émission, toujours en direct. Et nous avons le plaisir de recevoir François Cochet. Avant de faire, de le présenter et d'évoquer le sujet qui va donc concerner cette deuxième partie d'émission, ben je souhaite tout d'abord bienvenue naturellement à tous les éditeurs qui nous rejoignent en ce libre journal des amitiés françaises. Je rappelle que malheureusement nous n'avons pas de standard, mais que nous serons très heureux de prendre vos messages, de les proposer à notre invité. Vous pouvez le faire par courrier électronique. Je rappelle l'adresse de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors, nous avons reçu plusieurs messages lors de notre émission précédente, malheureusement. Ils sont arrivés trop tard, parce qu'ils ont été envoyés à partir de 19h20, 19h25. Donc, surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à le faire un peu avant, quand même, la fin de notre émission qui est prévue à 21h. J'aborde donc maintenant le thème de cette deuxième partie d'émission. Lors de la parution de la très complète et monumentale Nouvelle Histoire de France, nous sommes convenus avec Éric Anceau, qui a dirigé cette brillante œuvre collective, de réaliser un certain nombre d'émissions avec une sélection d'auteurs sur des thèmes particuliers. Nous avons ainsi reçu Éric Anceau, nous avons aussi reçu récemment Yves-Marie Berset, autour notamment des thèmes de la société des temps modernes et des révoltes paysannes sous la monarchie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Cochet pour une période toujours très marquante de notre histoire contemporaine, puisque François Cochet a écrit le chapitre consacré à la Grande Guerre, avec, comme c'est l'articulation de ce livre, un certain nombre d'éclairages, de focus qui sont ajoutés en fin de chapitre et qui sont consacrés à des thèmes particulièrement intéressants, qui sont ceux des taxis de la Marne, de Verdun, de Clémenceau et de Foch. Il est souvent plus difficile de faire court que de faire long, et c'est une véritable gageure que réussit François Cochet à rassembler en un chapitre l'essentiel de cette guerre en un document magistral et passionnant, et en dégageant bien sûr les axes et les enseignements principaux. Ce sera le thème de cette émission, et vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir François Cochet à l'occasion donc de ce chapitre qu'il a écrit dans la Nouvelle Histoire de France, publiée aux éditions passées, composées. François Cochet, bonsoir.
Bonsoir, Thierry Delcourt.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct au micro de Radio Courtoisie. C'est un grand plaisir que de vous recevoir pour évoquer cette histoire toujours si importante à nos yeux que celle de la Première Guerre mondiale. Je vous présente aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je pense que vous êtes déjà passé à Radio Courtoisie.
Absolument, oui, oui. Il y a quelques années déjà, mais bon, le temps passe vite.
Alors, je vais vous représenter. C'est vrai que le temps passe très vite. Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université de Lorraine Metz. Vous avez d'ailleurs développé et ancré l'histoire militaire. Vous êtes un spécialiste reconnu justement de cette histoire militaire et particulièrement celle de la Première Guerre mondiale. Vous avez bien entendu de nombreuses responsabilités en matière d'enseignement, mais aussi d'autres engagements, notamment auprès de différents musées. Et vous êtes d'ailleurs membre de plusieurs conseils, de comités scientifiques, d'un certain nombre d'entre eux. Vous êtes par exemple président du conseil d'orientation scientifique du mémorial de Verdun. Vous êtes aussi membre du comité scientifique, ça a attiré mon attention parce que vos centres d'intérêt, bien sûr, vous êtes surtout connu pour cela, hein. C'est la Première Guerre mondiale, vous avez écrit de très nombreux ouvrages en la matière, je vais en citer quelques-uns, mais vous êtes aussi membre du comité scientifique du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte.
Absolument, mais on pourrait ajouter que je suis membre aussi du conseil scientifique de la Fondation de la mémoire de la guerre d'Algérie. Le point commun à tout cela,
Oui.
eh bien, c'est simplement ce que j'appelle l'expérience combattante. C'est-à-dire que je travaille depuis maintenant 30 ans sur le rapport que les soldats entretiennent au champ de bataille, à l'ennemi, à leurs armes et au combat. Et donc, effectivement, même si mon cœur de métier, si je puis dire, est la Grande Guerre, et notamment à l'occasion du centenaire où j'ai appartenu au Conseil scientifique national, mais je ne m'interdis pas de faire quelques embardés, si je puis dire, sur la guerre de 1870, qui, à mes yeux, est la première guerre véritablement moderne, qui annonce vraiment la Grande Guerre. Et je décline aussi en aval. Guerre d'Indochine, sur laquelle j'ai co-dirigé avec Rémy Porte et
Voilà.
avec Yvan Cadeau un dictionnaire, et je travaille actuellement sur la guerre d'Algérie, par exemple, sur l'expérience combattante de la guerre d'Algérie.
Parce que, en effet, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Certains, vous venez de le préciser, sont directement liés naturellement à la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi d'autres ouvrages consacrés à d'autres guerres, Deuxième Guerre mondiale et vous l'avez dit, guerre d'Indochine, que vous avez d'ailleurs, pour certains d'entre eux, écrit. Avec de nos invités réguliers. Et je pense
Absolument.
bien sûr avec à Rémy Porte, hein, que
Oui,
nous
mon complice.
voilà, recevions toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis aussi Yvan Cadeau. Hein,
Absolument.
j'avais reçu Yvan Cadeau d'ailleurs pour ce dictionnaire sur la guerre d'Indochine que vous avez donc écrit aussi avec. Rémy Porte, je mentionne aussi cette histoire de l'armée française
Oui, tout à fait.
1914-1918, hein, qui a eu la
Chez
mention,
Talandier.
voilà, chez Talandier en 2017, c'est récent, qui a eu d'ailleurs une mention spéciale du prix Erwan Bergaud.
Oui, et nous avons été édités en poche même en 2021 avec Rémy.
Oui.
Donc l'ouvrage a pas trop mal marché.
Oui, et puis dans ce type d'ouvrage aussi, un ouvrage qui a attiré mon attention. Parce que ça reflète aussi vos centres d'intérêt, les soldats inconnus de la Grande Guerre,
Oui, c'était
chez
un colloque.
Sauteca.
C'était un colloque que nous avions tenu en 2010, qui a été publié en 2011. Et effectivement, c'était tout à fait intéressant. J'avais co-dirigé cet ouvrage avec Jean-Noël Grandhomme, qui est professeur à l'Université de Nancy, enfin, qui ne l'était pas encore à l'époque. Et c'était tout à fait passionnant de suivre l'historique, si je puis dire, de la création de certains monuments aux inconnus. Qui fluctue terriblement dans l'histoire. Et c'était tout à fait passionnant de suivre, par exemple, la politique mémorielle à l'égard des inconnus dans les pays de l'ex-bloc soviétique, qui ont redécouvert leurs inconnus, si je puis dire, après 1991, après la chute du mur. Il y avait donc des choses tout à fait passionnantes à suivre au niveau international.
Alors vous évoquez dans ce chapitre, hein, sur la Grande Guerre, ces inconnus et leur contribution à la guerre. Je vous demanderai, lorsque nous aborderons ce thème, effectivement, quels exemples, quels noms vous voudriez citer pour quels faits particuliers.
De héros, cette fois inconnus. Pas...
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
Il y a des inconnus qui ont fait des choses extraordinaires.
Absolument, bien sûr,
Et
oui. Et...
par définition, nous ne les connaissons pas. Donc,
Oui, bah oui,
sinon, ils ne
parce que
seraient pas inconnus.
le héros, comme dit Antoine Prost, le héros a plus tendance à mourir que les autres, d'une part.
Oui.
Et puis, bah, parce que, il y a aussi le fait que dans cette grande guerre, un très grand nombre d'officiers, à peu près les deux tiers en fait, sont des officiers de réserve. Et ils combattent aux premières lignes dans les tranchées, mais après la guerre, eh bien, ils retrouvent leur métier d'origine. Et ce ne sont pas des militaires permanents, si je puis dire. Et ça, c'est très, très important à comprendre pour comprendre cette sociologie des tranchées. Qui est tout à fait capital pour comprendre la Grande Guerre dans son ensemble.
Alors rappelons donc aussi ce dictionnaire de la Grande Guerre que vous avez
Oui, bien
coécrit
sûr.
avec Rémy Porte, donc, hein, ça c'est
Et
Robert Laffont,
49
hein.
autres auteurs.
Et voilà, et puis avec Yvan Cadeau et Rémy Porte, donc on en a parlé. La guerre d'Indochine, le dictionnaire, ça c'est chez Perrin.
Avec 90 auteurs,
Oui.
il faut les mentionner parce que ce sont eux qui font vivre en dictionnaire.
Oui. C'est vrai que vous avez dirigé un certain nombre d'œuvres collectives. Sur
Oui,
ces thèmes,
c'est
hein.
le travail même d'un directeur de recherche, d'un professeur d'université, qui consiste pas seulement à rédiger ses propres ouvrages, mais justement à diriger, à encadrer des recherches.
Et puis un livre qui attire mon attention, parce que nous sommes tous concernés, c'est le petit guide pour mener votre propre
Ah.
enquête et retrouver votre ancêtre poilu, que vous
Oui.
avez donc édité chez Pierre de Taillac en
Oui.
2022 avec Erwan Le Gall.
Oui, tout à fait. Alors, d'une part, Erwan est un jeune chercheur, en tout cas beaucoup plus jeune que moi, et nous avions proposé à Pierre de Taillac, parce que les grands éditeurs n'étaient pas intéressés par l'idée, en fait, disons les choses clairement, hein. Et Pierre de Taillac travaille remarquablement bien. Et il faut lui rendre hommage parce qu'il est quasiment le dernier des éditeurs militaires. Et nous avions, avec Erwan, qui travaille lui beaucoup sur la prosopographie et les méthodes numériques, nous avions effectivement proposé de présenter, c'est une coédition avec le musée de la Grande Guerre de Meaux et avec le mémorial de Verdun, de proposer donc la liste complète ou la plus complète possible de tous les moyens archivistiques en termes de sources, en termes de moyens numériques, permettant effectivement de retrouver son ancêtre, l'arrière-grand-père actuellement à peu près en termes générationnels, qui avait combattu dans les tranchées. Et c'est un exercice tout à fait fascinant parce que vous aviez évoqué mon action auprès des musées. Moi, je suis persuadé que l'universitaire se doit socialement d'essayer de populariser ses travaux à travers notamment une démarche muséographique. Et ce que nous avons fait avec Erwan Le Gall sur ce petit guide, entre guillemets, est tout à fait, je crois, sans fausse modestie, original. Et Antoine Pro a bien voulu nous faire la préface en remarquant cette originalité d'approche.
En effet, vous êtes très impliqué dans tous les grands lieux de mémoire de la guerre
Oui.
de 14-18. On a parlé bien sûr de Verdun. Moi, j'aimerais d'ailleurs, mais on le fera au cours de la discussion, puisque vous avez tout un éclairage particulier, un focus particulier à la fin de votre chapitre, justement, qui sont consacrés aux 300 jours de Verdun. J'aimerais à ce moment-là vous poser la question, c'est comment bien visiter Verdun? Est-ce qu'il y a eu des guides, hein, Michelin d'ailleurs, hein,
Ah
qui
oui,
ont
bien
été
sûr.
édités après la guerre, hein, comment
Oui.
visiter Verdun, etc., le chemin des dames. Mais comment bien visiter Verdun? Est-ce qu'il y a là une manière de le faire, un guide particulier qui permet justement de comprendre, de voir, de ressentir ce qui s'est passé, même si le terrain a changé? J'ai remarqué aussi, vous étiez impliqué aussi dans le mémorial de Notre-Dame-de-Lorette. Enfin, vous êtes très présent dans tous ces lieux de mémoire.
Oui, parce que je confirme ce que je disais à l'instant. À mon sens, il n'est de travail universitaire que si, en aval, il y a une diffusion de la recherche. Et la diffusion de la recherche, elle se passe par nos écrits, c'est-à-dire par nos ouvrages, mais elle se passe aussi par accès au grand public. Et travailler sur la muséographie, c'est infiniment plus rentable, si vous me permettez cet horrible mot. Parce que nos livres sont finalement en histoire assez peu lus, même lorsque le succès est au rendez-vous, alors que les familles se précipitent littéralement sur les musées de la Grande Guerre. Il y a une véritable demande sociale de la Grande Guerre. Les familles veulent savoir où a combattu l'arrière-grand-père, où il est mort éventuellement, où il a été blessé, etc. On est entré dans une histoire de la Grande Guerre qui est une histoire du sensible, une histoire familiale, mais une histoire qui du coup doit être soigneusement explicitée par l'historien. Le rôle social de l'historien, à mon sens, c'est de faire comprendre ce qu'ont été les constructions mémorielles de la Grande Guerre. C'est pour cela qu'il y a 2 ans, j'avais publié un ouvrage collectif sur les dramaturgies de la bataille de Verdun, parce que effectivement, la bataille de Verdun a été mise en scène entre guillemets très précocement par la presse de l'arrière, et depuis, il faut apprendre à lire cette bataille en faisant un vrai travail de mémoire, c'est-à-dire en expliquant comment fonctionne les processus mémoriels. La mémoire se construit, se déforme, évolue, vit, meurt, et tout ça, c'est le rôle effectivement de l'historien que d'expliciter tout cela, je crois.
Alors justement, je voulais vous poser cette première question. Comment vous en êtes venu à vous passionner pour l'histoire militaire et plus particulièrement sur celle de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce bain, en quelque sorte?
Alors, il y a un atavisme pour tous les phénomènes militaires. Jusqu'à 14-15 ans, je souhaitais préparer Saint-Cyr, et puis j'ai bifurqué vers d'autres voies. Mais je me suis aperçu, lorsque j'ai fini ma carrière, qu'il y avait quelque part une cohérence dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai commencé une première thèse de troisième cycle sur les civils rémois en guerre déjà. C'est-à-dire que la guerre était déjà là. Les civils rémois ont cette particularité d'avoir été bombardés pendant 4 ans et demi et d'avoir été en situation de front. Et puis, de civils rémois bombardés en 14-18, je suis passé pour ma thèse d'habilitation à l'histoire des prisonniers de guerre. En proposant une synthèse de la captivité de guerre de 1870 à 1995 à l'époque. Et une fois que j'ai été élu professeur, où on a quand même le choix comment dire, des orientations de carrière et notamment des thématiques de recherche que nous souhaitons développer, eh bien là, très clairement, à partir de 2000, je me suis orienté sur l'histoire de l'expérience combattante, une histoire des armes aussi. Et bon, je suis un des rares universitaires à ne pas mépriser les armes et à en avoir fait, à avoir tenté en tout cas d'en faire une histoire. Voilà, donc le lien est là, hein, des civils en guerre à l'histoire des prisonniers et à l'expérience combattante. Ça se tient finalement quelque part.
Avec un fort goût de jeunesse pour l'armée quand même,
Oui,
puisque vous avez
tout à fait.
envisagé, ce qui explique d'ailleurs sans doute tous ces liens très forts que vous avez avec l'institution militaire et un certain
Oui,
nombre
absolument. Bah, je suis encore
de leurs
officier de
représentants.
réserve citoyenne. Et puis, surtout, j'ai eu envie de réagir à cette fâcheuse habitude française, spécifiquement française d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas cela ni en Allemagne, ni en Angleterre, un petit peu plus en Italie, mais cette fâcheuse habitude française de considérer que l'histoire militaire est forcément mauvaise. Et forcément idéologiquement typé. Et je trouve ça d'une stupidité sans nom. Et j'ai souhaité, dès que j'ai été élu professeur, effectivement, développer une histoire militaire intelligente. Et je suis persuadé que c'est possible.
Parce que
Et là, j'ai
oui.
trouvé la complicité, effectivement, avec Rémy Porte, parce que nous sommes
Oui.
tous les deux sur exactement la même ligne et quelques autres, hein. Nous ne sommes pas seuls, mais enfin, il est quand même difficile dans l'université française de faire son chemin en histoire militaire, hein. Faut dire les choses assez clairement à vos auditeurs.
C'est un peu incompréhensible parce que les batailles quand même font l'histoire.
Pas
C'est
seulement les batailles,
pas que les
l'histoire
batailles,
militaire
mais quand même,
est une histoire totale,
ça
puisque elle touche à l'économie, elle touche à l'histoire des techniques, elle
Oui.
touche à l'histoire des sociétés, elle touche à l'histoire des relations humaines par le biais du commandement, de l'obéissance, etc. Elle touche à l'histoire culturelle par le biais de ce qu'est la culture militaire. Donc c'est une histoire au même titre que les autres, que toute bonne histoire sociale ou économique.
Mais
Mais
on...
malheureusement, elle a vu ses ailes un peu brisées. Il y a quelques rénovateurs. Je pense à André Martel qui a fait un travail considérable en histoire militaire en France dans les années 70-80. Mais elle a été un petit peu éreintée par la vogue actuelle qui dure depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, de l'histoire culturelle. Qui nie les faits, qui considère qu'il n'y a de représentation, qu'il n'y a de vrai que les représentations, que les faits n'existent pas, que seules les représentations existent. Ce qui fait d'ailleurs penser à Wyszyński des procès de Moscou de 34-37 disant les faits n'existent pas. Et ben moi j'ai voulu rétablir les faits et c'est exactement d'ailleurs ce que j'ai voulu faire dans ce chapitre sur la Grande Guerre pour la nouvelle histoire de France.
Alors justement, vous avez raison de nous y ramener, parce que c'est pour ce chapitre que nous vous recevons. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir, chapitre consacré donc à la Grande Guerre que vous écrivez dans la Nouvelle Histoire de France, publiée aux éditions Passé Composé, et qui est dirigée, c'est un ouvrage collectif, et il y a une centaine d'historiens comme vous, qui ont écrit, de spécialistes de ces périodes, qui ont décrit donc dans cet ouvrage dirigé par Éric Anceau. Alors la question que je voulais vous demander, c'est effectivement, comment fait-on pour écrire un chapitre consacré à la Grande Guerre, et résumer une période aussi vaste, aussi terrible, et aussi variée aussi, que la Grande Guerre? Comment, c'est la grande difficulté de faire court sur une période aussi vaste, riche et dense. Comment avez-vous
Ben
fait?
oui,
Comment fait-on?
vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai bien essayé de négocier avec Éric Anceau un élargissement de mon nombre de signes, mais il a refusé véritablement. Bon, écoutez, non, ce n'est pas facile. La solution que j'ai trouvée, c'est effectivement d'essayer de penser l'essentiel. C'est-à-dire de revenir au réel. Loin justement des images que je signalais sur les représentations de l'histoire dite culturelle, où les faits n'existent plus. Et moi, j'ai souhaité, parce que c'était la demande d'Éric Anceau hein, aussi, j'ai souhaité revenir aux faits. Aux faits, et dans ce cas-là, si vous ne vous intéressez qu'aux faits, eh bien, il y a des choses qui émergent assez rapidement, vous permettant de construire, de bâtir, même en un nombre de signes assez limité, de bâtir un séquencement, si vous voulez, un plan, entre guillemets. Et il m'a semblé qu'effectivement, il y avait quelque chose qui s'imposait à l'évidence. C'était d'abord et avant tout une révolution militaire. Que c'était également une fantastique évolution économique. Dont je pense d'ailleurs que la France ne s'est jamais totalement remise, et puis que c'était aussi des évolutions, par exemple, politiques, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et en quatrième lieu, ce sont certes des évolutions culturelles, mais sans doute moins puissantes, moins profondes que la révolution économique, que la révolution militaire de ces 4 années. 4 années, hein, j'insiste beaucoup parce que en 4 années, il y a eu davantage de changements en histoire militaire et économique notamment qu'en un siècle précédent. Et ça, c'est quand même fantastique, si vous voulez. Il faut quand même qu'on en ait bien bien conscience.
Alors vous commencez justement ce chapitre en disant que la Grande Guerre constitue l'horizon indépassable de l'idée même de conflit pour les Français. Pour quelles raisons, plus que la Deuxième Guerre mondiale? C'est pour les raisons que vous avez expliquées d'ailleurs, parce que dans toutes les familles, il y a un parent qui s'est battu à Verdun, qui s'est battu en 14-18 dans les tranchées. C'est pour ça que cette grande guerre demeure pour nous autres Français l'idée même de conflit.
Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses qui participent à cela. Hein. Il y a d'abord l'ampleur des pertes, hein, tout simplement.
Oui.
L'ampleur des pertes, 1,5 million de morts, 365 000 au bas mot blessés, 650 000 veuves, 805 000 orphelins, etc. On n'en finirait pas de décliner ces pertes, plus les pertes matérielles, hein, bien entendu. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la Grande Guerre, pour les Français, c'est la période de tous les périls et de toutes les pertes. Bon, mais il y a aussi l'ampleur de l'engagement, c'est-à-dire quand même 8 millions 200 000 mobilisés sur les 4 années de guerre, qui suppose et qui signifie plutôt l'importance du sentiment de défense. C'est-à-dire que ce qui fait l'importance de cette grande guerre pour les Français, c'est que les Français ont eu, à tort ou à raison, mais ils ont eu le fort sentiment d'être attaqués. Et que donc, il convenait de défendre le sol français à tout prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément, par exemple, dans la Deuxième Guerre. Hein? Il y a aussi une ambiance. Alors, nous y travaillons justement avec Erwan Le Gall, avec qui je vais refaire un ouvrage prochainement. Il y a eu l'ambiance d'union sacrée. Alors, cette union sacrée, elle est réelle, mais il convient de l'expliciter et de la dépasser, je crois. Mais elle a joué quand même un rôle important, c'est-à-dire une espèce de trêve des partis, une espèce de trêve politique, formale, respectée d'ailleurs, les anicroches sont très très nombreuses, mais un sentiment perçu qu'il y avait une nation face à la guerre. Et ça, vous ne retrouvez pas ça dans la Deuxième Guerre, par exemple. Parce que la Deuxième Guerre, c'est quelque part l'image de la division. Ces deux pouvoirs qui prétendent incarner la légalité et la légitimité tout à la fois. C'est la division entre résistantialistes et collaborationnistes, même si on sait aujourd'hui qu'ils sont 2% de chaque côté et que les 96% restants attendent, s'accommodent. Bon, mais en tout cas, la Deuxième Guerre n'est pas une guerre consensuelle. Alors que la Grande Guerre demeure une guerre consensuelle.
Alors, vous évoquez justement les pertes. J'ai une question que j'aimerais vous poser sur ces pertes. Hein. Vous avez rappelé ces chiffres terribles. 1,5 million de morts, et puis les blessés, avec tous les malheurs derrière que cela provoque. 8 millions de Français, écrivez-vous, ont été aussi appelés sous les drapeaux entre le 12 août 1914 et le 11 novembre 1918. 1,5 million sur 8 millions, c'est un chiffre considérable. Mais ce chiffre, j'aimerais que, si c'est possible, le ramener à un fantassin qui est mobilisé en 1914, qui va traverser la guerre. Quel est le risque qui concerne ce fantassin, ou quel est le taux de survie des fantassins? Parce que c'est l'infanterie qui a le plus souffert, qui a eu le plus de
Absolument.
pertes. Un fantassin qui est mobilisé en 1914, qui va faire toute la guerre, puisqu'il fera toute la guerre, puisqu'il est mobilisé, quel est son taux de survie? Parmi tous ceux qui ont été mobilisés en 1914, combien en pourcentage seront encore en vie en 1918?
Alors, nous avons maintenant quelques références assez précises. Je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais y répondre par une voie un peu détournée.
Oui.
8 millions de mobilisés sur l'ensemble de la guerre, d'abord, c'est 20% de la population totale. Donc c'est énorme,
Oui.
énorme. On parle actuellement beaucoup de mobilisation éventuelle pour un conflit à venir à l'égard de à l'horizon de 2035. La France d'aujourd'hui a 66, 67 millions d'habitants. Vous voyez ce que représenterait 20% de notre population totale. Bon, donc comment dire, l'appel à la population française est absolument gigantesque, hein, gigantesque. Ensuite, pour répondre indirectement à votre question, la moyenne des pertes tuées et disparues de la France métropolitaine, c'est 16,6% démobilisés. Voilà, ça c'est la moyenne. Mais comme toute moyenne, cette moyenne veut rien dire, hein, parce que d'abord, les pertes sont différentielles par âge. L'essentiel des pertes sont des classes 12 à 15, c'est-à-dire des jeunes gens qui avaient 20 ans en 12 ou en 1912, pardon, ou 20 ans en 1915. Et là, c'est l'énormité des pertes, c'est-à-dire ce sont des jeunes hommes qui meurent, hein, très concrètement. Bon, et puis les pertes sont différentielles par arme, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez fort bien mentionné le sacrifice de l'infanterie. En moyenne, l'infanterie, c'est 23% de perte. Pas tout à fait, 22,9%, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. La cavalerie, c'est 8%. L'artillerie, c'est 6%. Le génie, c'est 6% également. Les services, c'est 3%. En revanche, les généraux, dont on dit pique-pendre
Oui.
dans une certaine littérature et dans certains films, 41 tués au front ou morts des suites de la guerre, 41 sur 344 en activité en 1914. C'est-à-dire que ça fait un taux de perte des généraux de 12%, c'est-à-dire le double d'un simple soldat du génie. Donc, vous voyez,
C'est considérable.
mort des jeunes, mort extrêmement différentielle, sacrifice de l'infanterie, évidemment, sacrifice de l'infanterie. Si vous allez au niveau des officiers subalternes, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, les pertes chez les fantassins, chez la BIF, 29%.
C'est gigantesque.
29%. Pourquoi? Parce que vous avez des jeunes officiers de carrière ou de réserve, plus encore. Parce qu'il y a 35 000 officiers d'actifs en 1914, mais il y a 55 000 officiers de réserve. Il y aura sur la totalité de la guerre plus de 100 000 officiers de réserve. Et ce sont ces jeunes sous-lieutenants, ces jeunes lieutenants, qui entraînent leur section à l'assaut. Et ce sont eux qui meurent. Je suis en train de préparer un ouvrage avec Julie Dandurin sur les lieutenants. Eh bien, ce sont les morts des sous-lieutenants pendant la guerre 14 qui m'ont donné envie de commencer cet ouvrage. Bon, et puis, il y a des mortalités qui sont, j'allais dire, saisonnières, entre guillemets. Le terme est horrible, même s'il est démographique. J'ai fait quelques calculs, moi. 1914, sur l'année 1914, c'est-à-dire d'août à décembre, hein, c'est-à-dire même pas 6 mois, hein, 1969 morts par jour. Parce qu'on nous dit, oui, la Grande Guerre, c'est 900 morts par jour. Mais 900 morts par jour, c'est une moyenne sur 4 ans et demi. C'est-à-dire que comme toute moyenne, ça ne veut rien dire. 1969 morts par jour en 14. Quelle société actuelle tolérerait de tels chiffres de pertes? Vous voyez? Ce qui interroge par rapport au vécu de la Grande Guerre et ce qui interroge par rapport éventuellement à notre société actuelle. Et puis, 1915, 956 morts par jour, 1916, 691 morts par jour, 1917, 448 morts par jour. C'est-à-dire que l'année des mutineries, l'année du chemin des dames est paradoxalement l'année la moins meurtrière. Ce qui prouve d'ailleurs au passage que les généraux ont été de plus en plus économes de leurs hommes, parce qu'ils savaient que la ressource manquait, et qu'on a remplacé les hommes par de la technologie. Nous allons sans doute y revenir, mais c'est extrêmement important.
François Cochet, ça veut dire que si on évoque le sacrifice de l'infanterie, vous citez 29% des officiers subalternes morts au combat sur toute la guerre, 29% dans l'infanterie, 23% de tués dans l'infanterie, ça veut dire qu'en
Tué ou
1914,
disparu, hein.
vous
Tué ou
n'avez
disparu.
aucune. Oui, tués et disparus. Vous êtes en 1914 dans l'infanterie, vous n'avez quasiment aucune chance de survivre à 4 ans de guerre.
Bah, vous avez,
C'est ça que ça veut dire.
vous
C'était très
avez,
impressionnant.
vous avez un tiers de chance d'être tué et vous avez 2 tiers de chance de survivre. Mais voilà. Mais après, il faudrait pouvoir rentrer dans le détail. Et là, il faudrait prendre parcours individuel par parcours
Oui.
individuel. Et c'est très difficile à suivre. Mais en 1916, ou en 1915 plus encore, la survie d'un sous-lieutenant d'infanterie doit être assez limitée, hein, je
Oui,
pense.
c'est vraiment ce que ces chiffres montrent
Oui.
malheureusement. Alors, je vous propose, si vous voulez bien, d'aborder ce que vous avez baptisé dans votre chapitre. Les modalités de combat, c'est-à-dire les opérations de cette guerre hein, qui couvre donc 4 années, 1914 à 1918, que vous résumez et que vous décrivez en même temps parfaitement bien. Je vous propose voilà, que vous nous les décriviez.
Alors, plus on manque d'hommes, et c'est vrai dès décembre 1914, plus on va pallier ce manque d'hommes par une montée en technologie. si je puis dire. Et ça, les militaires, les décideurs militaires s'en sont rendus compte dès le début de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc traumatique, il y a eu un choc culturel, qui ont été les premiers combats d'août 1914, qui n'ont absolument pas été conformes, entre guillemets, à ce que l'on attendait de la guerre. Il y avait des visions un peu vieillies de la guerre, surtout chez les journalistes et les hommes politiques. Et donc, à partir de fin 14, on a compris déjà que, vu le front fixe sur 750 km de long de la Suisse à la mer du Nord, où toute opération était bloquée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune initiative possible, ni tactique, ni stratégique, il est absolument impossible de prendre l'ennemi à revers, ce qui est le rêve de tout stratège, et on ne peut l'attaquer que frontalement. Et sur ce que j'ai appelé un système tranché, qui est de plus en plus profond, si vous voulez, étalé dans la profondeur, 2, 3, 4, 5 km de profondeur. Donc, on comprend très précocement que le seul moyen de parvenir à briser le front adverse, c'est l'artillerie. Et c'est l'artillerie de plus en plus lourde qui vient bouleverser les tranchées de l'adversaire. Mais on lance des programmes d'artillerie lourde en France dès septembre 14. Il y a un deuxième programme en 1916. Mais le problème, c'est que la fabrication de ces pièces lourdes ne peut arriver que 6 mois, 9 mois ou 1 an après. Et en attendant, que faire? Eh bien, on va tenter, en 1915 notamment, de lancer des grandes offensives d'infanterie. Et c'est pour cela que l'année 1915 est une année terrible pour l'infanterie française. Au-delà, on monte en technologie. C'est-à-dire qu'on introduit des réformes, notamment en 1916. On diminue le nombre d'hommes par régiment, par bataillon, par compagnie, par section. Mais moins il y a d'hommes, plus ils sont technologisés, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, plus ils ont des appuis-feu importants, plus ils ont une puissance de feu importante, avec les canons de 37, avec les mortiers Scott, avec les lance-flammes, avec le fusil mitrailleur Chauchat qui apparaît en 1915. Donc, si vous voulez, la puissance de feu d'une section, d'une compagnie d'infanterie fin 1915 est quasiment doublée par rapport à une section, une compagnie de 1914, plus que doublée même, mais avec moins d'hommes. Donc là, il y a une véritable révolution militaire qui se passe aussi d'ailleurs chez les Allemands hein, et chez les Britanniques,
Et
qui se
comment ça
bouscule.
s'équilibre entre justement allemand et français? Vous nous expliquez que la puissance de feu devient décisive, que l'on diminue les effectifs des régiments, des bataillons, compensés par justement leur propre puissance de feu, de l'armement qui les accompagne, avec une primauté pour l'artillerie et l'artillerie lourde. Comment ça s'équilibre entre français et allemand de ce point de vue, notamment sur l'évolution?
Eh bien, les deux armées ont constamment été en miroir, hein. Dès avant la Grande Guerre, les deux armées allemandes et françaises s'observent beaucoup. Et même si elles ne tirent pas les mêmes conclusions des mêmes faits, par exemple, lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les Allemands ont compris, parce qu'en 1904-1905, il y a déjà toute la Grande Guerre, hein. Il y a les barbelés, il y a les tranchées, il y a les mitrailleuses, hein, à Port-Arthur, hein. Mais les Allemands en retiennent la leçon que les mitrailleuses doivent être portées en première ligne, alors que les Français les mettent en défensive plutôt en 1914, alors que les Français retiennent de 1904-1905 l'école de la volonté de Foch, c'est-à-dire qu'une troupe au moral d'acier peut vaincre les mitrailleuses. Bon, mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que les deux armées sont en miroir constant l'une et l'autre, et qu'elles se copient beaucoup. Elles se copient beaucoup, les Français copiant par exemple le service de santé allemand à partir de 1916, copiant aussi le recours à l'artillerie lourde et les différents calibres spécialisés, etc. Mais les Allemands regardant aussi du côté français en ce qui concerne par exemple le combat en forêt ou des choses comme ça. Donc les deux armées, loin de s'ignorer au contraire, j'allais dire presque s'imprègnent l'une de l'autre. La défense en profondeur, c'est quelque chose qui est pensé aussi bien par les Allemands que par les Français.
Alors, j'aimerais vous poser comme quelques questions sur justement le déroulement de ces opérations entre 1914 et 1918. Hein, vous l'évoquez d'ailleurs dans ce chapitre, François Gauchet, ce chapitre que vous consacrez à la Grande Guerre dans la Nouvelle Histoire de France, publié chez Passé Composé et dirigé par Éric Anceau. La première question que j'aimerais vous poser, c'est les raisons de l'échec des premières opérations de l'armée française en août 1914, échec qui aboutit à la grande retraite jusqu'à la Marne. Hein. Ça, c'est la première question que j'aimerais vous poser. Pourquoi se casse-t-on les dents? Et la deuxième question, pourquoi la bataille de la Marne n'est-elle pas décisive? C'est cette deuxième question. Et puis après, j'aimerais aussi que vous évoquiez, parce que vous sont les termes, 1916-1917, le règne des hyper-batailles.
Oui.
Hein.
Alors,
Trois, quatre
pourquoi se
questions
casse?
sur les opérations, si vous voulez bien,
Oui,
François Cochet.
c'est absolument capital, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on se casse les dents sur la Marne? Enfin, non, c'est une victoire
D'abord sur la
décisive, mais
frontière,
pourquoi
oui.
sur la frontière? Les premiers
En
combats
août.
sont terribles. Mais pourquoi, j'allais dire, pourquoi les Allemands se cassent-ils les dents aussi dans l'application de leur plan Schlieffen, hein? C'est
Oui,
la même chose, hein? Alors,
oui.
je crois que la solution tient en un dépassement, si vous voulez, un vieillissement, en 14, 18 en tout cas, du concept de Clausewitz de bataille décisive. Clausewitz, qui meurt en 1839, a conçu toutes ses analyses stratégiques sur la bataille de Cannae d'Hannibal contre les Romains. C'est une bataille d'extermination où effectivement les Romains sont littéralement tronçonnés, encerclés et détruits en quelques heures. Bon, par une manœuvre extrêmement hardie, je dirais, d'Hannibal. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne? Les convictions clausewitziennes, pardon, sont effectivement de cet ordre-là. C'est-à-dire que il s'agit, selon les termes de Clausewitz, en début de guerre, de monter aux extrêmes. C'est-à-dire de déployer toute la puissance d'une armée en campagne. C'est pour ça, par exemple, que les Allemands utilisent dès les premiers jours leurs réserves, alors que les Français rechignent à les utiliser dans un premier temps. Donc une montée aux extrêmes pour appliquer à l'ennemi, je dirais, la tactique du marteau-pilon. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'écraser rapidement en une, voire deux batailles décisives. Bon, alors pourquoi ça fonctionne plus en 14, notamment sur la bataille des frontières? Eh bien, tout simplement parce que les fronts sont gigantesques. Dans une bataille décisive au sens clausewitzien, la bataille est limitée. Il y a une unité de temps et une unité de lieu. C'est-à-dire qu'elle est limitée à un champ de bataille, même s'il est assez vaste comme Austerlitz. Et en gros, une bataille dure une journée, deux éventuellement. Voilà. Eh bien, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça en 14 parce que d'une part, le terrain est extensible. C'est-à-dire que les combats de Belgique se déroulent sur 60 km de front, Bertrix, etc. La bataille de la Marne, c'est pratiquement 230-240 km de front. Et pourquoi est-ce que la bataille décisive n'est plus possible? Eh bien, à mon sens, parce que les effectifs engagés sont tels que même si l'ennemi réussit à percer, entre guillemets, à enfoncer un endroit, eh bien, l'adversaire peut combler rapidement le trou, entre guillemets, parce que il dispose de troupes en
Réserve.
nombre incommensurable. La bataille de la Marne, c'est quasiment presque 1 million d'hommes de chaque côté. Et donc, l'extermination qui était possible quand vous aviez des armées de 50 000 hommes, 70 000 hommes, ne devient plus possible. Et vous avez un équilibre des forces, un équilibre de la puissance de feu. Qui est semblable de part et d'autre et qui empêche en fait toute bataille décisive.
Ce sont les réserves, en fait, hein, qui permettent de rendre ces batailles, justement, Non, pas décisive en elle-même, puisque à chaque fois que le front est percé, l'adversaire met ses réserves et bouche le trou, en
Voilà,
quelque sorte, en
c'est un peu
quelques
ça.
jours. Ce qui est
C'est
assez
un peu
frappant.
ça,
Oui.
la massification du nombre d'hommes
Oui.
engagés.
Ce qui est,
Voilà.
pardonnez-moi, Jean-François Cochet, mais ce qui est assez impressionnant quand on lit les histoires, les récits de cette Première Guerre mondiale, avec ce que vous appelez donc les hyper-batailles.
Alors, les
Hyper-batailles, vous
c'est
voyez,
un.
donc Artois, Champagne, Somme, Verdun, Chemin des Dames, c'est que lorsqu'on lit les récits, notamment dans les états-majors, on a l'impression que les premiers jours des offensives, c'est la panique totale, et puis que progressivement, grâce aux réserves, justement, l'engagement des réserves, tout se stabilise, et on a perdu quelques kilomètres. Est-ce que
Oui, alors.
c'est le récit de ces hyper-batailles, c'est...
Alors, commençons par votre deuxième remarque. Effectivement, dans un premier temps, en tout cas, et là on peut revenir à 14 un petit peu, les états-majors sont assez décontenancés parce qu'ils ont des repères mentaux qui sont ceux, effectivement, encore de la bataille clausewitzienne, de la bataille décisive. Mais ils s'adaptent assez rapidement. C'est-à-dire que dès les premiers jours de combat, le grand quartier général français, on peut reprocher plein de choses à Joffre, mais il comprend que désormais la guerre sera longue, hein, et que on va l'emporter à coups d'artillerie. Et Joffre est le premier à commander des pièces en septembre 14. Maintenant, les hyper-batailles. De quoi s'agit-il? J'ai proposé ce terme pour désigner des batailles essentiellement à partir de 1916, mais on pourrait en trouver les prémices en 1915, parce que quelque part la bataille d'Artois et de Champagne de septembre 15 ressemble déjà très fort aux hyperbatailles de 16, Verdun, la Somme, etc. Alors de quoi s'agit-il? Je crois que dans une hyperbataille, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. D'abord la durée. La durée. Verdun, c'est, on dit souvent 300 jours, en fait c'est un peu plus, puisque les combats ne se terminent véritablement qu'en août 1917. La durée, fantastique. La Somme, c'est 3 mois également. C'est-à-dire que là, on est loin, pour le coup, de l'unité de temps clausewitzienne, d'une bataille d'une journée ou deux. Hein, c'est une bataille qui s'installe dans le temps. D'autre part, la bataille est hyper bataille parce que elle mobilise. L'économie du front intérieur. Il faut construire des canons, fabriquer des obus, des gaz de combat, mais aussi fournir du foin pour les chevaux, etc. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'économie française ou allemande qui est mise à contribution. Et puis, c'est hyper bataille aussi par le nombre de personnes engagées dans ces batailles. Avec à chaque fois des centaines de milliers de soldats de part et d'autre. Et avec, en plus, encore une fois, les ouvriers des usines d'armement, les ouvrières des usines d'armement, et tous ceux qui produisent peu ou prou pour l'économie de guerre. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité créer ce terme d'hyper-bataille. On pourrait y accoler aussi l'offensive Broussilov russe de 1916, Caporetto, etc. C'est une forme inédite de bataille. D'ailleurs, sont-ce encore des batailles? C'est bien le problème. Une bataille qui s'installe comme ça dans le temps, peut-on parler encore de bataille au sens traditionnel du terme? Peut-être on pourrait dire hyper combat, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être je vais réviser mon vocabulaire. Mais effectivement, c'est une nouveauté.
Oui. Alors, vous insistez, c'est toute une part de ce chapitre hein, que François Cochet, que vous écrivez donc sur la Grande Guerre dans la Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé, c'est que l'hyperbataille est en quelque sorte alimentée, permise par justement une forme de révolution économique et qui est la mise en œuvre d'une économie de guerre. Est-ce
Oui,
que
absolument.
la victoire de la France est aussi parce que la France s'est mieux organisée sur le plan économique, en économie de guerre, que l'Allemagne.
Ah bah oui, incontestablement. La France et l'Angleterre. C'est-à-dire que il y a des critères qui ne mentent pas, si je puis dire. Le niveau de vie allemand s'effondre littéralement. Le niveau de vie français baisse, mais ne s'effondre pas. L'inflation est très forte, certes, il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes d'alimentation en charbon, etc. Mais les Français n'ont pas connu de disette grave, même s'ils ont des cartes de rationnement à partir de janvier 18 pour le pain notamment, alors que dès fin 15, les Allemands connaissent des disettes très sérieuses. Le blocus britannique à l'égard des côtes allemandes est quand même assez sévère. Et il manque plein, plein de choses en Allemagne et dans les empires centraux, parce que l'Autriche-Hongrie est dans une situation bien, bien pire encore, alors que les Français et les Britanniques peuvent effectivement faire venir des denrées, notamment de leurs empires respectifs, et ça change considérablement la donne. Et puis, il y a le problème des hommes. Les Allemands perdent vraiment beaucoup, beaucoup d'hommes, notamment sur la deuxième partie de la guerre, et notamment à l'été 1918.
François Cochet, nous devons faire une petite pause, un message de la radio, et puis suivi d'une pause musicale. Et vous avez choisi d'ailleurs Franz Schubert, un divertissement à la hongroise,
Oui, tout à
joué
fait.
à quatre mains. Pourquoi avez-vous fait ce choix d'ailleurs? Vous aimez
Alors,
Schubert, je pense.
j'adore Schubert,
Oui.
il n'y a rien de mauvais chez Schubert. Et puis j'aime beaucoup ce divertissement à la hongroise parce que il y a des tas de manières de le jouer et je trouve qu'il correspond à mon grand âge. C'est-à-dire que non, non, mais
C'est très relatif, hein.
il y a une manière très électrique de jouer ce divertissement à la hongroise. Certains auteurs très très vifs, très rapides, et puis il y a une manière apaisée, et je me sens plus proche aujourd'hui de cette manière apaisée. En tout cas, c'est une très belle pièce.
Eh bien, nous écoutons, et puis en reprenant, nous évoquerons effectivement ce qui se passe en 1918, comment les Alliés finalement réussissent à remporter cette guerre. Qu'est-ce qui change par rapport aux 3 années précédentes? Ce qui change d'ailleurs en quelques mois, est-ce que ce sont les armes nouvelles, est-ce que c'est une tactique nouvelle? Et puis, je vous proposerai aussi d'aborder à ce moment-là sur la manière dont les hommes ont tenu sur le terrain. Parce que ça, si c'est une question incroyable que l'on peut se poser, vous avez évoqué les pertes et les conditions dantesques dans lesquelles ils vivaient, comment ont-ils tenu? Vous écrivez dans ce chapitre que la nation doit beaucoup à des chefs très connus, mais aussi à des personnes moins connues. J'aimerais que vous mettiez en avant ceux qui, si vous voulez bien, quelques exemples qui vous sont particulièrement chers. Et puis, il faudrait que nous parlions aussi de vos focus, et nous avons aussi de nombreux messages d'auditeurs. On fait beaucoup de choses à voir.
D'accord.
À tout de suite.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Thank you.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette conversation avec François Gauchet à l'occasion de la publication de ce chapitre consacré à la Grande Guerre, à la Première Guerre mondiale, dans la Nouvelle Histoire de France aux éditions passées composées. François Gauchet, vous nous expliquez les raisons pour lesquelles, la situation est bloquée ces trois premières années de la guerre, 1914-1917. Vous faites référence au concept clausewitzien de bataille décisive. Eh bien, la bataille décisive ne peut être réalisée, vu justement l'ampleur des forces en jeu, vu l'ampleur géographique du champ de bataille. Qu'est-ce qui va faire qu'en 1918, tout change ?
Alors, tout change pour les Allemands notamment, parce que désormais, avec la défection russe, ils sont en situation de force. En attendant en tout cas l'arrivée des Américains, inexpérimentés, hein, faut le rappeler quand même, hein, ces Américains. Et donc, Hindenburg et Ludendorff, les Dioscures, qui commandent désormais en chef, vont tenter leur va-tout à la suite de 5 offensives successives, en gros déclenchées de mars 1918 à juillet 1918, 5 offensives successives qui leur permettent d'attaquer de l'Artois à la Champagne. Alors, ils profitent d'une supériorité numérique provisoire. Ils profitent surtout d'une conception différente de l'usage de l'artillerie qui est due au colonel Bruchmüller. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais le colonel Bruchmüller est celui qui a permis la victoire de Riga en septembre 1917 et qui a mis au point une méthode d'artillerie absolument géniale qui permet de segmenter les objectifs de l'artillerie en fonction de la puissance des pièces et du tir, soit tendu, soit courbe. En gros, c'est une méthode quasiment de tir direct sans repérage préalable. Et effectivement, c'est cette méthode qui concentre le feu sur des portions de front très réduites, qui déclenche un véritable feu d'enfer sur des portions de front très réduites, qui va permettre à 5 reprises aux Allemands de percer. Sauf que nos Allemands percent à 5 reprises, notamment en mars contre la 5e armée britannique de Gough, qui se fait littéralement enfoncer. Et il faut que Pétain délègue plusieurs divisions françaises pour venir au secours des Britanniques, ça ne faut pas l'oublier. Mais ils percent, mais pourtant ils ne gagnent pas la guerre. C'est-à-dire qu'on retrouve une fois de plus, malgré les armes nouvelles, malgré l'aviation, qui on va le voir peut-être jouer un rôle considérable, malgré l'artillerie d'assaut, l'artillerie spéciale, c'est-à-dire les blindés du côté allié, eh bien, malgré tout, les percées qui étaient le rêve tant attendu depuis 1915, ce sont les Allemands qui réalisent ces percées, mais pour autant, ils ne l'emportent pas. Preuve qu'encore une fois, la bataille décisive n'est pas possible dans la technologie de l'époque.
Alors que se passe-t-il ? À partir de juillet 1918, pourquoi les Alliés, et particulièrement l'armée française, renversent en quelques semaines complètement la tendance ? Justement, c'est parce que elle a plus de canons, parce qu'elle a une utilisation nouvelle de l'aviation, des chars d'assaut. Quelle est la raison de la victoire, finalement ?
Tout cela à la fois, cher Thierry Delcourt. D'une part, les Allemands sont épuisés. Les Allemands sont épuisés matériellement. Ils n'arrivent plus à remplacer les pièces d'artillerie qui explosent d'usure. À partir de l'été 18, il y a plus de pièces qui explosent du fait de l'usure que du fait des tirs de contre-batterie alliés. On estime qu'ils ont perdu au cours de ces cinq offensives, de l'été 18 entre 700 000 et 1 million d'hommes.
Ah, c'est gigantesque.
Les blessés disparus. C'est énorme. Mmh. Et c'est l'homme qui manque désormais dans l'armée allemande. Et puis, il y a des atteintes graves au moral. C'est-à-dire qu'à partir du 15 juillet 1918, après l'échec du Friedensturm sur le front de Reims grâce au général Gouraud, eh bien, le moral s'effondre totalement. Et chose que l'on ignorait complètement à l'époque, mais que les historiens ont découvert depuis, et qui aurait changé la donne sur le regard à porter sur la fin de la guerre. Nous y reviendrons peut-être. On sait aujourd'hui, mais encore une fois, on ne le savait pas à l'époque, qu'il y a sans doute pas loin d'un million de soldats allemands qui, sans être véritablement mutinés, n'obéissent plus aux ordres sur l'arrière-front et ont conservé leurs armes et donc sont une troupe incontrôlable. Hein. Et puis il y a bien entendu l'arrivée des Américains, mais l'arrivée des Américains, il faut la relativiser hein, quand même. Hein. Les Américains arrivent en force à partir de janvier 18, ne vont combattre réellement qu'à partir du printemps 1918, sont totalement inexpérimentés, ont des lourdes pertes parce qu'ils sont justement inexpérimentés. Mais il y a aussi effectivement l'emploi massif des armes nouvelles du côté allié, notamment la création par les Français de la division aérienne du général Duval, qui vient briser l'emploi massif de l'aviation, vient briser les ultimes offensives allemandes, et puis bien entendu l'artillerie spéciale, c'est-à-dire les blindés. Lorsque Mangin contre-attaque effectivement à l'ouest de Reims, donc dans le Tardenois, à partir du 18 juillet 1918, eh ben, il attaque avec 400 chars. C'est la première attaque massive de blindés. Et autant ça avait été un échec horrible sur le chemin des Dames à Berry-au-Bac en avril 17, autant là, c'est couronné de succès. Donc vous voyez une alchimie assez complexe entre l'effondrement du moral allemand et surtout les pertes humaines allemandes, et compenser face à cela la montée en puissance des armées alliées, la montée en puissance des armes nouvelles, et ce qu'on appellerait dans un vocabulaire militaire actuel l'interarmisation. C'est-à-dire que si vous prenez les combats du Tardenois de juin-juillet 1918, eh bien vous avez les Italiens, les Anglais, les Français, les Américains qui combattent côte à côte dans des unités mixtes. Et ça, c'est une nouveauté militaire extraordinaire, si vous voulez. Et ça préfigure toutes les guerres d'alliance actuelles.
Les chars permettent la percée, à la différence de ce qui s'est passé en 1917 à Berry-au-Bac, c'est parce que le matériel est de meilleure qualité, parce qu'il y en a plus.
Non, c'est parce que simplement à Berry-au-Bac, en avril 17, l'emploi tactique des chars n'a pas correspondu du tout à ce que souhaitait le général Étienne qui avait créé ces unités blindées et n'a pas correspondu non plus à ce que souhaitait le commandant Bossu qui commandait sur le terrain et qui est tué d'ailleurs sur le terrain. C'est-à-dire que on a envoyé les chars à Berry-au-Bac où se situe d'ailleurs un très émouvant monument national aux chars de combat. On les a envoyés de manière dispersée et surtout sans soutien d'infanterie. Et l'infanterie n'a pas suivi, en gros, les chars. Donc ils ont été isolés et pris à partie un par un et détruits un par un, ceux qui, en tout cas, ne tombaient pas en panne. Alors qu'en 18, eh bien là, on a un emploi conforme à ce que souhaitait Étienne, c'est-à-dire un emploi massif, en grand nombre, en grande masse.
François Cochet, vous nous expliquez parfaitement, tel que vous faites d'ailleurs dans ce chapitre que vous écrivez sur la Grande Guerre dans la Nouvelle Histoire de France aux éditions passées composées, les raisons de cette victoire. J'aimerais vous poser cette question, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, il ne nous reste que 20 minutes malheureusement à passer ensemble. Parce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement, sur lequel vous avez écrit bien sûr, qui est le soldat, le poilu, qui a enduré des souffrances, c'est votre terme, inédites, par leur intensité, comment les soldats ont-ils fait pour tenir ?
Alors, c'est à la fois un grand mystère et c'est à la fois à la société française de l'époque qu'il faut se référer pour comprendre. C'est-à-dire que cette société de l'époque est infiniment plus hiérarchique que la nôtre. La société d'il y a 110 ans n'est pas la même du tout. elle est hiérarchique, elle est froide, je dirais, sociologiquement. C'est-à-dire que les catégories sociales ne se mélangent pas, la mixité sociale n'existe pas. Et c'est une société qui est habituée à obéir. Et ça, on ne le comprend plus aujourd'hui. L'école apprend à obéir aux élèves, ce qui n'est pas tout à fait le cas, me semble-t-il, aujourd'hui. Les hiérarchies sociales sont très intenses, très, très dures. Les relations de travail, que ce soit dans le monde industriel, dans le monde paysan également, les relations de travail sont très, très dures, infiniment plus qu'aujourd'hui. Hein? Et on a plus de proximité aussi avec la mort, pour le dire clairement. La mort est omniprésente dans la vie civile, j'entends. C'est-à-dire que les personnes âgées meurent au sein des familles. Et on voit le grand-père mourir, entouré de ses petits-enfants. Il y a encore une mortalité infantile qui a bien diminué, bien entendu, par rapport au XVIIIe siècle, mais qui est encore là. Donc la mort fait partie du quotidien, fait partie du présent, alors que notre société actuelle a tendance à nier cette mort, à la cacher, entre guillemets. Donc tout cela explique qu'il y a une habitude à la douleur, à la dureté en tout cas, à la douleur, je crois, qu'il y a une habitude à l'obéissance. L'école, l'armée, la justice, qui sont, et l'Église, bien évidemment, hein, qui sont les institutions de référence de l'époque, toutes ces institutions apprennent à obéir. Et bah, ce sont ces phénomènes d'obéissance qu'on va retrouver dans les tranchées aussi. Et puis, il y a d'autres phénomènes. On ne se bat plus à partir de 1915 déjà, 1916 sûrement en tout cas. On ne se bat plus pour l'Alsace ou la Lorraine. On se bat pour le copain. On se bat pour le petit groupe de pays, entre guillemets. On se bat pour le groupe primaire, hein, comme les appellent les militaires. On se bat pour les copains de popote. On se bat pour le sous-officier de contact quand on l'aime bien. On est prêt à risquer sa vie pour aller le rechercher s'il est blessé entre les lignes. On se bat pour l'officier, sous-lieutenant, lieutenant, s'il est un bon officier et qu'il a gagné la confiance de ses soldats. Et là encore, il y a de très belles scènes où l'on va, où on voit des simples soldats aller rechercher dans les betteraves, comme ils disent selon leur expression, leur officier de contact. Voilà, c'est une société du front que d'ailleurs le monde de l'arrière ne comprend pas, ne peut pas comprendre. Parce que c'est une société exclusive faite de souffrance, mais de partage aussi. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on tient aussi. Pour le groupe
Oui.
primaire, pour le copain.
C'est étonnant ce que, enfin, c'est étonnant ce que vous précisez sur les raisons qui font tenir les poilus. C'est un peu universel. Quand
Absolument, bien
on
sûr.
interroge les soldats de quelque époque qu'ils soient, que ce soit ceux qui étaient à Dien Bien Phu, ceux de
Absolument.
14-18, et même maintenant dans les conflits actuels où intervient l'armée française, les soldats vous répondent, mais nous on y va pour les copains.
Absolument. Ouais.
C'est incroyable, hein, c'est à
Mais non,
demeure.
ça fait partie de la culture militaire
C'est
de
ça,
base, je dirais.
oui, la
Et c'est
camaraderie.
une culture militaire que justement nos contemporains ne comprennent plus. Parce que le service militaire a été suspendu en 1995 et que vous avez maintenant des générations qui sont acculturées militairement.
Oui.
Mais effectivement, moi je pense, dans la foulée de ce que vous venez de dire, aux 800 gars qui, 3 jours avant la chute de Dien Bien Phu, alors que certains d'entre eux n'étaient même pas brevetés parachutistes,
Il
qui
saute.
ont sauté pour l'honneur des copains.
Oui.
Enfin,
Un sujet sur
voilà.
lequel aussi vous avez travaillé, hein, puisque vous avez
Et un peu.
publié ce
Ouais.
dictionnaire, hein, sur la guerre
Et ça
d'Indochine.
fait effectivement partie
Oui.
de la culture militaire, de la camaraderie militaire,
Alors
la
François Cochet,
socialité.
malheureusement, il ne reste que 12 minutes. J'ai de nombreux messages d'auditeurs à vous lire, donc je vais vous les lire. J'aimerais encore vous poser une question, si vous voulez bien. On va bien sûr essayer d'évoquer vos focus, mais on va consacrer un peu de temps au message des auditeurs. Vous écrivez que la nation doit beaucoup à des chefs très connus, Joffre, Castelnau, Pétain, Foch, Fayolle, Franchet-Desprez, à des héros de terrain, Drian, Rénal, et puis à d'autres personnes méconnues comme le général Buat, le colonel Rimaillot, le colonel Fillou, puis voilà, des héros discrets, modestes. Vous évoquez Maurice Genevoix. Quelle personnalité aimeriez-vous citer, celle qui vous touche particulièrement parmi tout cela?
Alors, il y en a de très nombreux. Je suis en train de préparer un ouvrage sur les grandes figures de la Grande Guerre et j'essaie de focaliser sur des gens peu connus. Clément Tell est un remarquable organisateur de l'économie de guerre, mais il est quand même assez connu. Parmi les gens de terrain, moi j'adore parler du capitaine Delvert, parce qu'effectivement, normalien supérieur, issu de la méritocratie républicaine, son père est ouvrier cordonnier en chambre, enfin maître ouvrier en chambre, il accède à normal sup par le système des bourses. Il est, en tant que normalien supérieur, officier de réserve. Il est lieutenant en début de guerre, il va finir la guerre comme capitaine. Et Delvert, dont nous rééditons d'ailleurs au mémorial de Verdun prochainement le travail sur le carnet d'une compagnie, est absolument un témoin remarquable parce que ce sont ces réservistes qui sont, comme je le disais tout à l'heure en commençant, qui sont à la tête de leurs hommes dans les tranchées. Il y a plus de réservistes que d'officiers d'actifs dans les tranchées. Et Delvert va tenir le retranchement R1 à l'ouest du fort de Vaux. Et pendant 8 jours, avec sa compagnie, il va tenir tête face à 2 régiments allemands. Et il redescend, sa compagnie compte 170 hommes lorsqu'il monte à R1. Il redescend avec 9 hommes valides, voilà. Et pendant 8 jours, il a tenu tête. Et après la guerre, bah, il va reprendre son métier d'agrégé d'histoire à Janson de Sailly. Et voilà le type du héros discret, mais qui joue un rôle considérable, si vous voulez.
Alors malheureusement, François Cochet, j'aimerais vous poser encore 1000 questions. Peut-être accepteriez-vous de revenir? Parce qu'il y a tellement de choses.
Ah, bah, très volontiers, bien sûr.
Hein, on va prendre. Après cette émission, nous prendrons rendez-vous, parce que votre chapitre est bien sûr est limité et court, hein, forcément. C'est le format de ce livre. Oui. Et vous voyez, il y a 1000 sujets à discuter avec vous qui sont issus de ce chapitre. Et donc, je serais heureux que nous poursuivions. Alors, je vous propose de consacrer le temps qui nous reste, puis vous reviendrez pour les autres points que vous développez aux messages très nombreux des auditeurs. Alors, il y a d'abord un auditeur qui a lu votre chapitre et qui fait référence à l'éclairage, au focus que vous faites sur le général Foch. Je le lis. Alors, voici ce qu'il dit. « Professeur, étant l'un de vos fidèles lecteurs, j'apprécie beaucoup vos travaux. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'excellent chapitre que vous avez écrit pour la nouvelle histoire de France, celui que nous évoquons ce soir. J'ai simplement une question concernant l'éclairage très favorable au personnage de Foch. Récemment, le lieutenant-colonel Gay, qui fut professeur d'histoire et de tactique à l'école de guerre et qui passa de nombreuses années au service historique de la défense, estimait que Foch portait une part de responsabilité dans les mécomptes subis par l'armée française lorsqu'il commandait sur le terrain, que cela soit à Morange en août 14, en Artois en 15, sur la Somme en 16. Ne parlons pas de la catastrophique offensive Meuse-Argonne en octobre 18, qui occasionna des pertes terribles chez les Américains, où l'incroyable hésitation dont Foch fit preuve pendant 15 jours avant d'ordonner l'offensive en Lorraine, qui sera de ce fait annulée à cause de l'armistice. Ne pensez-vous pas, comme le disait le regretté général Bach, qu'on a fait de Foch un personnage de légende omniscient, alors que dans son parcours, il y a manifestement des hauts et des bas?
Alors, nous sommes d'accord sur la dernière phrase. Il y a des hauts et des bas dans le parcours de Foch.
Oui.
Alors, je remercie ce monsieur qui est un fidèle lecteur, donc ça prouve que j'en ai quelques-uns. Je connais particulièrement bien le colonel Christophe Gay, puisqu'il a fait sa thèse sous ma direction.
Ah, bah alors.
Je le vois fréquemment. Christophe est un Geoffrien plus qu'un Fauchien.
Ah.
Voilà. Donc...
bon.
Non, soyons sérieux. Foch a de nombreux défauts, mais il a aussi quelques qualités. Alors d'abord, parmi les défauts, il y a bien entendu son attitude à la tête du 20e Corps en tout début de guerre, où il va désobéir à Castelnau, attaquer alors que Castelnau avait prescrit un repli au-delà du Grand Couronné. Et ça va être d'ailleurs l'occasion d'une rupture décisive, fondamentale entre les deux hommes. Foch n'aura de cesse de vilipender Castelnau en disant qu'il voulait se replier jusqu'à la Manche. Et c'est la haine entre eux désormais, alors que jusqu'alors ils s'entendaient bien. En revanche, Foch réussit particulièrement bien dans un rôle de conseil fin 14 auprès des Belges. Et là, il gagne une expérience du commandement interallié, déjà, qu'on va retrouver en 1918 à Doullens. Et puis, alors, le débat sur l'échec de la Somme, qui a été mené, effectivement, cette offensive est menée par Foch, mais c'est un débat sans fond. Et nous en avons parlé, justement, il y a quelques semaines à Verdun, avec Christophe Guay, où j'ai organisé un colloque sur les hyperbatailles de l'année 1916. Ce qui fait l'échec relatif de la Somme, l'échec est plus patent du côté britannique que du côté français, hein, dans la Somme. Les Français connaissent plus de succès que les Britanniques. Bon, mais ce qui fait l'échec relatif, c'est justement Verdun. Verdun qui a pompé des troupes françaises à la demande de Pétain, qui ont manqué pour exploiter la Somme. Hein, donc, il faut constamment voir les deux batailles en miroir. Il ne faut pas oublier non plus que, à la suite de la Somme, Foch est mis un petit peu sur la touche, mais pas tant que cela. C'est-à-dire qu'il sert un petit peu de joker, je dirais, au gouvernement. Il va faire une mission très importante en Italie après la défaite de Caporetto. Et surtout, lorsque l'occasion s'en présente, c'est-à-dire à partir de mars 1918, lorsque les Allemands attaquent à la suite, enfin, les cinq offensives que j'ai décrites tout à l'heure, eh bien, évidemment, quand il s'agit de enfin désigner un chef interallié, dont on parle depuis 1914 quand même, hein, eh bien, c'est évidemment la personnalité de Foch qui s'impose, d'une part parce que ni Clemenceau, ni d'autres personnalités politiques françaises ne veulent de Philippe Pétain, et d'autre part parce que et que Clemenceau va soutenir Foch à cet égard, et que les Britanniques ne veulent surtout pas que ce soit leur général Haig qui soit désigné, et Lloyd George soutenant Ferdinand Foch. On peut quand même, en toute honnêteté, reconnaître que Ferdinand Foch organise remarquablement la grande poussée à partir de fin juillet 1918. C'est-à-dire qu'il coordonne quand même toutes les attaques alliées jusqu'à la frontière. Alors bon, se pose le débat sans fond, fallait-il aller jusqu'à Metz? Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Oui, on pourrait l'occasion d'une prochaine émission de parler cette fameuse offensive d'octobre. Par exemple,
Oui.
hein, offensive de Lorraine, s'il vous voulez bien. Je poursuis les messages d'auditeurs. Alors, une auditrice qui vous remercie pour vos propos passionnants. Elle a un grand-oncle, écrit-elle, qui était sous-officier, qui est décédé en avril 17 en allant chercher les corps de camarades décédés. Pourquoi envoyer des soldats aller chercher les corps des camarades défunts et les exposer au danger? Comme vous le disiez, il était dans l'infanterie, âgé de 26 ans. Nous avions rencontré par hasard sa fiancée, venu en 1970 se recueillir sur sa tombe 53 ans plus tard. C'est émouvant.
Alors c'est très émouvant, mais je reviens sur mes propos antérieurs.
Oui.
Ce ne sont pas des ordres pour aller chercher les corps
Oui.
entre les lignes. Ça a toutes les chances d'être une initiative individuelle. Et c'est encore plus beau.
C'est magnifique, oui.
C'est-à-dire que au contraire, les officiers de contact et les sous-officiers, a priori, veillaient à ce que, sauf s'il s'agissait d'un officier important, mais veillaient à ce que eh bien, on ne risque pas la vie de quelqu'un pour aller rechercher le corps d'un autre. Hein? Donc là, il y a toutes les chances pour que ce soit une initiative de camaraderie militaire. Et non pas, effectivement, l'obéissance à un ordre.
Un auditeur qui évoque, c'est une polémique récurrente, les pertes des troupes coloniales. Vous l'abordez d'ailleurs dans ce chapitre hein, consacré à la Grande Guerre, dans la nouvelle histoire de France, François Cochet, que vous publiez, enfin que à laquelle vous participez aux éditions Passé Composé.
Oui, alors
Polémique sur
c'est.
les troupes coloniales.
Je suis même étonné que nous n'en ayons pas parlé avant,
Ah,
parce que
nous sommes
c'est un
limités
sujet,
dans le temps.
c'est un sujet assez récurrent et tout à fait polémique,
Oui.
mais que l'historien peut traiter de manière très, très sereine. Hein. Les chiffres, même s'ils ne disent pas tout, disent quand même beaucoup. D'abord, il faut distinguer armée d'Afrique et troupes coloniales. Hein.
Oui.
Armée d'Afrique, sont les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, mais aussi les Pieds-Noirs et la Légion. Hein. Et ces troupes d'Afrique ont 36 000 morts sur 270 000 engagés. Ça fait 16% des effectifs, c'est-à-dire c'est dans la moyenne nationale. Hein. Ce que l'on appelle globalement les Sénégalais, c'est-à-dire on appelle Sénégalais tout ce qui est africain subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, pardon. Ils représentent sur la totalité de la guerre 2,7% des effectifs de l'armée française. Hein. Ils ont entre 30 à 35 000 morts ou disparus, pratiquement la moitié de maladies d'ailleurs, hein, et pas au combat. Et on est là encore dans la moyenne nationale. On est à 16, 16,5. Ça correspond à la moyenne des régions militaires françaises. Et donc là, il faut être très, très clair. Mais
Oui.
on ne peut plus clair. Les troupes coloniales n'ont pas été de la chair à fusil.
Voilà.
Très.
Alors, François
Ils ont
Cochet,
connu des pertes semblables au régiment
merci.
métropolitain.
C'est sur cette réponse à cette question que nous devons malheureusement nous séparer. Je vous reviendrai, je garde les autres questions d'auditeurs sous le coude. On les reprendra lorsque nous aurons le plaisir de vous revoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir en direct. Je rappelle votre
Merci à vous.
contribution à la nouvelle histoire de France aux éditions Passé Composé. Merci à Stéphane, à la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 17 mai 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.